VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de semaine en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Claire Morin-Gibourg et Michel Joseph. À la une ce matin.
Au Congo, plusieurs dirigeants de l'opposition bloqués à Pointe-Noire ont pu regagner Brazzaville dans la soirée.
L'examen du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2016 a débuté au Niger.
Le budget s'élève à 1785 milliards. Ses principales caractéristiques, c'est environ presque 60%, sont affectées à l'investissement.
L'accord historique sur le nucléaire iranien est entré en vigueur hier. Les sanctions internationales qui frappent le pays vont être progressivement levées.
Crise migratoire en Europe, reportage dans un camp de la Croix-Rouge italienne, derrière la gare de Tiburtina dans Rome, la capitale.
Mali, j'ai pas beaucoup de solutions là-bas. Moi-même, je préfère venir comme cela que d'être resté là-bas. J'ai plus tous les risques pour venir.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Dans l'actualité africaine, au Niger, les parlementaires ont débuté ce week-end l'examen du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2016, avec un budget qui s'élève à près de 1 800 milliards de francs CFA. Plus de la moitié sera destinée aux investissements, selon le gouvernement qu'il a présenté au Parlement. La correspondance à Niamey d'Abdulrazak Idrissa.
C'est un projet de budget en hausse de 3% comparé à celui de l'année qui s'achève que le ministre délégué au budget auprès du ministre de l'économie et des finances a présenté à la représentation nationale, Mohamed Boucha.
Le budget s'élève à 1 785 milliards. Le budget, ses principales caractéristiques, c'est environ presque 60% sont affectés à l'investissement.
Quels sont les domaines prioritaires que ces investissements vont concerner? Gousmane Abdelmoumin est député, membre de la commission des finances du Parlement.
La sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire, les investissements dans le domaine routier, dans le domaine éducatif et sanitaire.
À la lecture du projet de budget, les parlementaires de l'opposition ont surtout des appréhensions quant à la réalisation du budget. Bakary Seydou, président d'un des groupes parlementaires de l'opposition.
Même si le financement existe, la capacité même de notre administration à pouvoir mobiliser ses ressources. Et c'est à ce niveau que je crois qu'il faudrait forcément faire la réflexion.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a enfin finalisé la liste de son gouvernement 5 mois après sa prise de fonction. Il a proposé une liste de 36 hommes et femmes en vue d'être validée par la Chambre haute du Parlement. Écoutons à ce sujet l'analyse du professeur Ali Buhari de l'Université de l'État de Nasrama à Kefi, près d'Abuja.
Les pays étouffés d'Asie. Situation très, très, très catastrophique au niveau de la corruption, au niveau de la moralité, au niveau de tout. Donc, il fallait aller très, très doucement. Et surtout avec les menaces de Boko Haram au nord du Nigeria, vous voyez, et sur le plan économique, avec la chute de prix de pétrole au niveau international, le gouvernement fédéral arrive maintenant difficilement à s'acquitter de payer les salaires des fonctionnaires publics. Donc, il fallait que ce bonhomme, comme il est bien expérimenté, il a été, comme les gens disent, un dictateur militaire. Je vous signale une chose. Pendant cette période, quand les gens croyaient qu'il n'a rien fait, il a mené des enquêtes pour pouvoir voir où les gens ont mis tout l'argent décaissé de la fonction publique. Donc, on a pas mal récupéré de l'argent. Et maintenant, on a tout versé cet argent dans la caisse nationale.
Le professeur Ali Buhari de l'Université de l'État de Nasrama à Kefi, près d'Abuja. Et toujours au Nigeria, 2 femmes kamikazes ont tué au moins 11 personnes qui fuyaient leur maison après un attentat attribué au groupe islamique Boko Haram dans le nord-est du pays.
Les Égyptiens ont commencé à voter hier pour élire un parlement qui va renforcer la mainmise du président Abdel Fattah al-Sissi sur le pays en l'absence de toute opposition violemment réprimée depuis 2013. Selon les experts, le seul enjeu de ce scrutin joué d'avance sera la participation qui permettra de savoir si le quasi-culte de la personnalité dont jouit al-Sissi s'effrite ou non. Après avoir éradiqué les frères musulmans, principale force d'opposition depuis près de 9 décennies, le nouveau régime a fait interdire et réprimer violemment toute manifestation de l'opposition laïque et libérale, interpellant les principales figures de la jeunesse qui mena la révolte de 2011, ayant entraîné la chute de Hosni Moubarak.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, Claire, le président Barack Obama a ordonné la préparation de la levée des sanctions contre l'Iran à l'occasion de la journée de l'adoption. Hier dimanche 18 octobre, date à laquelle toutes les parties ayant signé l'accord sur le nucléaire iranien devaient entamer sa mise en œuvre. Des précisions de Jean-Roger Bion.
Je me félicite de cette importante étape et, ensemble avec nos partenaires, nous devons maintenant nous concentrer sur le travail critique d'appliquer entièrement cette résolution globale qui répond à nos préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, a déclaré le chef de l'exécutif américain dimanche. L'Iran a entamé l'exécution de l'accord, démontant des centrifugeuses et coulant du béton dans le réacteur nucléaire à eau lourde d'Arak. Tout cela pour assurer que Téhéran ne peut construire d'armes nucléaires, a souligné le président Barack Obama. Pour sa part, l'Union européenne a adopté dimanche une loi permettant à ses pays membres de commencer à examiner les moyens de lever les sanctions contre l'Iran. Toutefois, le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, a prédit que ces sanctions resteront en place jusqu'à ce que l'Iran prouve qu'il honore tous ses engagements. Les représentants des 6 puissances mondiales, Grande-Bretagne, Chine, France, Russie, États-Unis et Allemagne, vont se retrouver ce lundi à Vienne pour mettre sur pied une commission chargée de surveiller les progrès que fera l'Iran.
Élection législative ce lundi au Canada. La campagne électorale a été âprement disputée. Un sondage de l'Institut Nassos dimanche créditait les libéraux et leur chef de file, Justin Trudeau, de 37,3% des intentions de vote, contre 30,3% aux conservateurs du Premier ministre Stephen Harper, au pouvoir depuis une décennie. À quoi faut-il s'attendre ? Timothée Donangmai a recueilli l'analyse de l'éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique à Montréal, Chika Kanyuri.
Dès le début, on pensait que ça ne serait pas très intéressant, puisqu'il y avait d'abord un premier ministre, M. Harper, qui est presque 10 ans au pouvoir, ce n'est pas très courant au Canada, et qui cherchait un 4e mandat. Et entre-temps, il y avait notre, ce qu'on appelle le nouveau Parti démocratique avec M. Thomas Mulcair qui montait. C'était un parti de centre-gauche à peu près, là, qui est monté rapidement. Puis on pensait peut-être qu'il allait prendre le pouvoir. Mais entre-temps, il y avait aussi le Parti libéral du Canada, le parti d'ailleurs qui a le plus dirigé le Canada depuis ce qu'on appelle la Confédération, c'est-à-dire l'indépendance du Canada, quoi, en 1867, donc c'est séparé la Grande-Bretagne à l'amiable, quoi. Donc ce parti était devenu le 3e, donc il était descendu assez bas aux dernières élections. Mais il a trouvé un chef, le fils de l'ancien premier ministre Pierre-Éliott Trudeau. Mais comme il a 43 ans, et au début, beaucoup de gens ne le prenaient pas au sérieux. Mais actuellement, c'est lui qui mène la campagne. Il a beaucoup de chances de former le prochain gouvernement.
En Israël, un Érythréen a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle par un agent de sécurité israélien qui l'a pris par erreur pour un assaillant lors d'un attentat dimanche, a indiqué aujourd'hui la police. Le secrétaire d'État américain John Kerry a confirmé qu'il rencontrerait cette semaine en Allemagne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puis qu'il se rendrait au Proche-Orient pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas.
En Irak, les forces de sécurité ont avancé hier dimanche sur 3 fronts face aux djihadistes du groupe État islamique, débusquant les poches de résistance dans et autour de Baïdji et se rapprochant de Ramadi et d'Awija, ont indiqué des officiers à l'AFP. Les forces de sécurité, soutenues par des unités paramilitaires, mènent depuis la semaine dernière une vaste offensive sur Baïji, située à 200 km environ au nord de Bagdad. Baïji est considérée comme l'une des poudrières les plus explosives depuis l'offensive fulgurante du groupe État islamique en juin 2014. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Jean-Roger Bion.
Au Burkina Faso, le premier salon de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement aura lieu du 23 au 25 octobre à Ouagadougou. La manifestation était initialement prévue du 25 au 27 septembre dernier, mais a été reportée à cause de la tentative de coup d'État. Le thème retenu pour cette première édition du salon, faire de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, un secteur prioritaire au Burkina Faso. L'économie touristique en danger en Tunisie. Au moins 70 hôtels ont dû fermer provisoirement leurs portes depuis le mois de septembre. D'autres vont suivre. La baisse de régime est due aux deux attaques djihadistes meurtrières ayant durement affecté le secteur touristique qui représente près de 10% du produit intérieur brut national. Le secteur touristique en Tunisie, un pays qui avait encore enregistré l'année dernière plus de 6 millions de visiteurs, emploie directement ou indirectement quelques 400 000 personnes. Et le président zambien Edgar Lungu s'en est remis à Dieu pour soigner son pays lors d'une journée nationale de prière hier dimanche, destinée à invoquer l'intervention divine pour résoudre la chute vertigineuse de la monnaie nationale. La devise zambienne, le kwacha, a perdu 45% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année en raison d'une baisse des prix du cuivre qui représente 70% des exportations. La Zambie est également frappée par une sécheresse qui perturbe la production hydroélectrique du pays.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger. Et maintenant, notre page sport avec Élisée Houlpatine. D'abord du football et les résultats des matchs comptant pour le dernier tour aller du championnat d'Afrique des Nations.
Déjà des écarts et une qualification qui se dessinent pour bon nombre d'équipes. C'est le cas de la Zambie, bourreau du Mozambique à Ndola, 3-0. De l'Angola qui s'est imposé en Afrique du Sud, 2-0. Même score pour l'Ouganda devant le Soudan. Et pour le Burundi face à l'Éthiopie, également à domicile, 2-0. Encore pour le Niger, vainqueur du Togo à Niamey. Autre résultat, la victoire de la Guinée face au Sénégal à Bamako, 2-0. Et celle du Nigeria contre le Burkina Faso sur le même score.
La suite de ces résultats avec notamment la bonne opération du Gabon à N'Djamena.
Les Panthers sont allés griffer les Sao du Tchad, score 2-0 et prennent du coup une sérieuse option sur la qualification pour la phase finale qui aura lieu au Rwanda. Autre succès par 2-2. Celui du Zimbabwe face aux Lesotho à Harare, 3-1. Rien n'est fait en revanche entre le Cameroun et le Congo, 0-0. Le Ghana, lui, a pris un petit avantage sur la Côte d'Ivoire, score 2-1. Même score dans l'autre derby de l'Afrique de l'Ouest à Bamako entre le Mali et la Mauritanie. Avantage donc pour les Aigles. On rappelle que la République démocratique du Congo s'est déjà qualifiée sans jouer suite au forfait de la Centrafrique. Quant au match retour, ils auront lieu le week-end prochain.
Début de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans au Chili, avec le bon départ des pays africains.
Le Nigeria, tenant du titre, a dominé les États-Unis 2-0. La Guinée a accroché pour sa part l'Angleterre 1-0. 0-0, c'est le résultat du champion d'Afrique, le Mali, face à la Belgique. Le quatrième représentant africain, l'Afrique du Sud, entre en compétition aujourd'hui et va en découdre avec le Costa Rica. A noter le mauvais départ du Brésil, battu par la Corée du Sud sur la plus petite des marques, 1-0.
Rugby, avec la Coupe du Monde en Angleterre et l'Afrique du Sud est dans le dernier carré.
Effectivement, à Londres, les Springboks ont battu à l'arraché le pays de Galles 23-19 grâce à un essai inscrit à 5 minutes de la fin. En demi-finale, les Sud-Africains affronteront la Nouvelle-Zélande qui a étrié la France 62-13. L'autre affiche des demi-finales mettra aux prises l'Australie à l'Argentine. Et puis volleyball pour dire que la France a remporté le championnat d'Europe des Nations. Une première grâce à son succès en finale face à la Slovénie 3-7-0.
Cyclisme pour finir et le Marocain Moussine Lassaini a remporté le Grand Prix Chantal Biya.
Oui, après 5 jours de course, ce succès a été obtenu à l'issue de la dernière étape courue entre Melima et Yaoundé sur 169 km. Moussine Lassaini en a profité pour mettre à l'écart tous ses principaux rivaux, laissant du coup la victoire d'étape au Camerounais Jérémy Nzeké.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, de nouveau avec vous. Nous passons maintenant au dossier du jour. Première escale, la Guinée, où la réélection d'Alpha Condé a été accueillie dans le calme. Le président sortant passe dès le premier tour avec plus de 57% des voix devant le chef de file de l'opposition, Sélou Dalane Diallo, qui lui a obtenu 31,44% des voix. Les résultats publiés samedi par la CENI doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Après une nuit calme, les activités ont repris dimanche matin comme d'habitude à Conakry. Les citoyens rencontrés dans la capitale affirment être surpris du calme qui règne depuis la publication des résultats de l'élection présidentielle.
Je suis vraiment étonné que les résultats aient sorti et qu'il n'y ait aucun bruit. La nuit, tout était calme et on est vraiment content parce que je crois que les Guinéens ont pu faire une prise de conscience à ce sujet.
Surpris d'abord parce que tout au départ, les leaders politiques avaient monté la tension. Les discours n'étaient pas apaisants.
J'ai été vraiment surpris qu'il n'y ait pas eu d'affrontement entre les deux partis, c'est-à-dire l'UFDG et l'URPG. Nos opposants ou nos dirigeants ont vraiment compris que ce n'est pas par la voie de la violence que nous pourrons émerger en Guinée.
Les résultats qui donnent Alpha Condé vainqueur dès le premier tour sont provisoires. Les autres candidats ont la possibilité de les contester. Mais Sélou Dalane Diallo, arrivé deuxième, a annoncé samedi qu'il ne déposerait pas de réclamation devant la Cour constitutionnelle.
Le collège des 7 autres candidats a déjà décidé de ne pas reconnaître les résultats de ce scrutin. Je confirme mon adhésion totale à cette décision. Je ne ferai pas non plus de recours auprès de la Cour constitutionnelle.
L'ancien Premier ministre Sidya Touré, troisième avec 6% des voix, a été le premier à se retirer du processus électoral. Mais certains candidats membres de l'opposition guinéenne ont affirmé qu'ils utiliseraient les voies légales. Contester en dehors des rues, en usant des recours légaux, c'est aussi l'appel de Alexander Lascaris, ambassadeur des États-Unis en Guinée.
Je voudrais appeler à tous mes amis guinéens de rester calme. Il ne faut pas empêcher l'expression de l'opinion politique de l'autre. Il ne faut pas jeter les pieds, il ne faut pas brûler les pneus. Il ne faut pas attaquer les gens, saccager le magasin, il faut rester calme.
Les candidats ont 8 jours pour déposer leur contestation. Si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie, au terme des 8 jours, elle peut alors confirmer les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, donc déclarer Alpha Condé réélu pour un second mandat. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Congo-Brazzaville, les leaders de l'opposition ont été empêchés de quitter la ville de Pointe-Noire, où ils ont tenu samedi dernier un grand meeting pour dire non au référendum constitutionnel. Dimanche, la même délégation, qui devait se rendre à Dolisi pour un énième meeting, a été bloquée pendant des heures par les forces de l'ordre. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Nguelan Goussou.
Tout le temps, depuis que nous avons commencé, la paix est le maître mot chez nous. Et nous sommes avec le droit. Nous avons le droit avec nous, nous avons le peuple avec nous. Donc nous savons que nous sommes sur la bonne voie, nous ne nous inquiétons même pas. La raison de notre côté, et puis Mao Tse-Tung disait que quand ça bouge, si ça bouge, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Comme ça bouge partout, ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction.
Que nous aussi, et peut-être plus que, nous sommes pour la paix. Comme nous avons été à Brazzaville le 25, comme nous avons été à l'intérieur du pays, nous sommes venus faire cette campagne en organisant ce méga meeting qui pour nous a été un grand succès, n'eût été justement cette sauvagerie que nous avons constatée, hélas.
C'est déjà une bonne chose de venir constater la mobilisation de cette foule que vous aurez vous-même du mal à quantifier, tant les gens sont nombreux, malgré les barrages, les entraves qui ont été mises par la fonction publique, les forces de l'ordre. C'est un meeting pour nous conforter dans le sens que nous avons raison, nous sommes dans la vérité. C'est pour dire qu'il n'y aura pas de référendum. Nous sommes venus leur donner rendez-vous pour le 20. À partir du 20, plus personne ne parlera de référendum dans ce pays. Ce sera classé.
Et une petite précision, ce matin, tous ces dirigeants de l'opposition ont pu regagner Brazzaville hier dans la soirée. Ils ont appelé un nouveau rassemblement à Brazzaville, la capitale, le 20 octobre prochain.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Direction le Tchad à présent, dans la lutte contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Le gouvernement tchadien passe à une application stricte de la mesure interdisant le port de la burqa. 62 femmes voilées, 62 femmes intégralement voilées, ont été interpellées par la police nationale la semaine dernière et elles ont dû payer une amende de 100 000 francs CFA avant d'être libérées. Qu'en pensent les habitants de N'Djamena ? Reportage de notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodma Djangar.
Un dernier avertissement. Désormais, toute personne qui sera prise avec sa burqa se retrouvera là où elle doit se retrouver.
C'était la sévère mise en garde du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mohamed Bachir, le 14 octobre 2015, adressée à une soixantaine de femmes portant la burqa arrêtées dans la ville de N'Djamena en présence de leurs parents. En guise de sanction, celles qui sont arrêtées ont payé une amende de 100 000 francs CFA avant d'être libérées. Réaction de quelques citoyens.
Nous vivons une insécurité caractérisée. Le port de burqa, en principe, on doit fermement frapper ce genre de personnes qui portent. Mais aller jusqu'à une amende de 100 000, c'est trop.
Ils ont arrêté les femmes pour les burqas et puis le gouvernement les dit que les gens ils sont payés 100 000. Non, 100 000, ce n'est pas une solution. Ils vont arrêter quelqu'un qui a des burqas en prison un mois.
Cette amende-là, d'une part, c'est bon. Parce qu'il faut que ce soit une amende qui peut être un peu au-dessus et les gens pourront avoir peur de ne pas porter.
Je ne suis pas un peu d'accord. Il y a des gens riches et pauvres. Les gens riches peuvent payer les amendes et marcher avec les burqas.
Docteur Daoud Badour, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, qualifie la manière dont la police a agi d'agression.
Tout le monde sait qu'on peut porter le hijab mais pas couvrir le visage. Maintenant que les policiers passent à l'acte, aller arrêter les femmes, même déshabillées, là c'est vraiment pas du tout logique. Comment peut-on arrêter une dame qui est au marché? La forcer d'enlever ses vêtements, là, ça s'est fait où dans ce monde? Les policiers, eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas de femmes? Comment peut-on imaginer ça? Même si une femme persiste, on n'a pas à frapper la femme ou aller l'amener au commissariat pour lui faire payer une amende. Et ça ne porte pas de la loi.
Docteur Daoud Badour craint que cette situation ne se dégénère et demande aux forces de l'ordre d'être prudentes dans l'application de cette mesure.
Ça risque de vraiment créer une révolte. Parce que si quelqu'un ne se retient pas et qu'il voit sa femme ou sa fille déshabillée comme ça en plein marché, quelle sera sa réaction? Les policiers, même avec ces comportements, prennent des risques vraiment énormes. Qu'on respecte les consignes données par le gouvernement. Une femme qui a le visage couvert, là, on a le droit de pas être violent, mais quand même le faire comprendre que ce n'est pas bon. Le policier doit être plus vigilant.
Le port du hijab avec foulard est permis, peu importe sa couleur, mais la burqa, voile islamique, qui couvre complètement le visage, est strictement interdit sur l'ensemble du territoire national. André Kodma Djangar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Suite de notre série sur les migrants africains en Europe. Notre envoyé spécial Nicolas Pino s'est rendu dans un camp de la Croix-Rouge italienne, derrière la gare de Tiburtina, dans Rome, la capitale. Ces migrants secourus en Méditerranée sont d'abord débarqués en Sicile avant de gagner les grandes villes italiennes plus au nord. Ils poursuivent ensuite leur périple et espèrent atteindre l'Allemagne ou la Suède. Écoutons son reportage.
Derrière la gare de Tiburtina, ce camp a été établi en juin cette année pour faire face à l'afflux de migrants en Italie. Il peut accueillir jusqu'à 200 personnes. La Croix-Rouge italienne fournit de la nourriture, un toit provisoire et surtout du réconfort. Ces personnes, en majorité des hommes, ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe. Ils restent dans le camp quelques jours, voire quelques semaines, pour reprendre des forces et poursuivre leurs rêves vers l'Allemagne ou la Suède. Ils viennent d'Égypte, du Soudan, de la Gambie ou du Mali. C'est le cas de Sama Tunkara, 23 ans, originaire de Bamako.
Mali, il n'y a pas beaucoup de solutions là-bas. On préfère venir comme cela que rester là-bas. Moi, précisément moi, je préfère venir comme cela que d'être resté là-bas. Malgré les risques, j'ai pris tous les risques pour venir.
Plus de 137 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Face à ce flux massif et continu, certains Italiens sont pris d'un élan de générosité. Ils apportent au camp de quoi soulager les migrants, notamment des vêtements ou des jouets pour les enfants. Franco Vicari est un habitant de Rome.
C'est le minimum que l'on puisse faire avec d'autres choses.
D'abord, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Nous n'en avons pas besoin, c'est superficiel. C'est un problème humanitaire énorme qui ne peut laisser indifférent.
Indifférent à ce qui se passe.
Deux autres camps non officiels sont établis à Rome, mais les migrants essaient de fuir au plus vite ce provisoire pour ne pas s'installer dans la durée. En effet, l'hiver approche à grands pas et les conditions de vie seront plus difficiles à supporter. Dawit s'inquiète, cet Érythréen a laissé sa femme et ses enfants dans un camp de réfugiés à Khartoum.
We live in like this tent.
On vit dans des tentes comme ça.
We have some people here and this is my bed.
C'est mon lit ici. C'est très dur de vivre ici. L'hiver va venir, donc ils vont changer des tentes. Sinon, on ne pourrait pas survivre au froid.
Les associations d'aide aux migrants espèrent que les gouvernements européens trouveront rapidement une solution durable pour régler cette crise. Depuis Rome, en Italie, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Et retrouvez tous les reportages de Nicolas Pinault sur la crise migratoire en Europe, mais aussi des vidéos et des photogalleries dans le dossier spécial L'Europe à tout prix sur notre site internet voaafrique.com.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Heaven can't help me now. Nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is, say you'll remember me. Standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Red lips and rose.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Michel Joseph était à la réalisation. John Allison était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24h sur 24 grâce à notre site internet voaafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.